Chapitre 4. Ces pirates avaient été autrefois, en général, des auxiliaires de Mithridate. Mais Sylla l'ayant battu, l'an 94 avant Jésus-Christ, lui ayant pris l'Ionie, la Lydie, la Mysie, lui ayant tué 200 000 hommes, ayant anéanti sa marine et l'ayant réduit aux états de son père, les marins du roi de Pont se trouvèrent sur le pavé, et ne pouvant plus combattre pour le compte du père de Pharnace, ils résolurent de combattre pour leur propre compte. À eux s'étaient joints tous ceux que les déprédations des proconsuls romains envoyés en Orient avaient poussés hors des gonds. C'étaient des Cyliciens, des Syriens, des Cypriotes, des Pamphyliens. Rome, occupée des guerres entre Marius et Sylla, laissait la mer sans défense. Les pirates s'en emparèrent. Mais ils ne se bornaient pas à attaquer les barques, les galères et même les grands bâtiments. Ils ravageaient, dit Plutarque, les îles et les villes maritimes. Bientôt, à ce ramas d'aventuriers et d'hommes sans nom, se joignirent des proscrits de Sylla, des nobles, des chevaliers. De même que le beau bandit vient chez nous de bandito, de même la piraterie en arriva à devenir une réaction de l'Orient contre l'Occident, une espèce de métier, sinon honorable, du moins pittoresque et poétique, qui pouvait fournir au Byron et au Charles Nodier du temps des types de Conrad et de Jean Sbogard. Ils avaient des arsenaux, des ports, des tours d'observation, des citadelles parfaitement fortifiées. Ils échangeaient de la terre à la mer et de la mer à la terre, des signaux compris par eux seuls à des distances considérables. Leurs flottes étaient riches en bons rameurs, en excellents pilotes, en matelots consommés. Leurs bâtiments étaient faits sous leurs yeux par les meilleurs constructeurs en Grèce ou en Sicile. Quelques-uns épouvantés par leur magnificence. Les poupes des principaux chefs étaient dorées, les appartements intérieurs avaient des tapis de pourpre, ils battaient la mer avec des rames argentées, ils érigeaient enfin leur brigandage en trophée. Le soir, on entendait, d'une ville située au bord de la mer, une musique qui rivalisait avec le chant et la mélodie des sirènes. On voyait passer un château flottant, illuminé comme une ville en fête. C'étaient les pirates qui donnaient concerts et bals. Souvent, le lendemain, la ville répondait au chant de la veille par des cris de désespoir, et la fête sanglante succédait à la fête parfumée. On comptait plus de 1000 de ces vaisseaux sillonnant la mer intérieure de Gadès à Tyr et d'Alexandrie au détroit de Lesbos. Plus de 400 villes avaient été prises et forcées de se racheter. Enfin, des temples, jusqu'alors sacrés, avaient été pris, profanés, pillés. Ceux de Claros, de Didyme, de Samothrace, ceux de Cérès à Hermione, d'Esculape à Épidaure, de Junon à Samos, d'Apollon à Axiom et à Leucade, de Neptune dans l'Isthme, à Thénard et à Calorie. En échange, ces bandits faisaient des sacrifices à leurs dieux, célébraient des mystères secrets, entre autres ceux de Mithra, que les premiers ils firent connaître. Parfois, ils descendaient à terre et se faisaient voleurs de grands chemins, infestaient les routes, ruinaient les maisons de plaisance qui avoisinaient la mer. Un jour, ils enlevèrent deux prêteurs vêtus de leurs robes de pourpre et les emmenèrent, ainsi que les licteurs qui portaient les faisceaux devant eux. Un autre jour, ce fut la fille d'Antonius, magistrat honoré du triomphe, qui fut enlevée et obligée de payer une énorme rançon. Parfois un prisonnier, oubliant en quelle main il était tombé, s'écriait pour leur inspirer du respect « Prenez garde, je suis citoyen romain !» Eux, alors, s'écriaient aussitôt « Citoyen romain ?» Que ne disiez-vous cela, Seigneur ? Vite, rendez aux citoyens romains ses habits, ses souliers, sa toge, afin qu'on ne le méconnaisse pas davantage. Puis, quand la toilette du citoyen était faite, on mettait le bâtiment en panne, on y accrochait une échelle dont le pied baignait dans la mer, et on disait à l'orgueilleux prisonnier « Citoyen romain, la route est ouverte, retournez à Rome !» Et s'il ne descendait pas de bonne volonté à la mer, on l'y précipitait de force. Voilà les hommes aux mains desquels était tombé César. D'abord, ils lui demandèrent 20 talents pour sa rançon. « Allons donc, leur dit César en se moquant d'eux, il paraît que vous ne savez pas qui vous avez pris. 20 talents pour la rançon de César ? César vous en donne 50. Seulement, prenez-y garde, une fois libre, César vous fera mettre en croix. 50 talents, c'était quelque chose comme 250 000 francs. Les bandits acceptèrent le marché en riant. César expédia, à l'instant même, toute sa suite pour recueillir cette somme, ne gardant avec lui qu'un médecin et deux valets de chambre. Il resta 38 jours avec les Siliciens, hommes très portés au meurtre, dit Plutarque, et les traitant avec un tel mépris que chaque fois qu'ils voulaient dormir, il leur faisait dire de se taire. Puis, quand il était éveillé, il jouait avec eux, écrivait des poésies, faisait des discours, les prenant pour auditeurs et les appelant brutes et barbares quand ils n'applaudissaient pas selon la mesure où César pensait que sa poésie ou son discours devait être applaudi. Puis, à la fin de chaque jeu, de chaque conférence ou de chaque lecture, « C'est égal, disait César en prenant congé d'eux, cela n'empêchera point qu'un jour ou l'autre je ne vous fasse mettre en croix comme je vous l'ai promis. » Et eux riaient à cette promesse, l'appelaient joyeux garçon et applaudissaient à sa bonne humeur. Enfin, l'argent arriva de Milet. Les pirates, fidèles à leurs paroles, relâchèrent César, qui, de la barque qui le conduisait au port, leur cria une dernière fois « Vous savez que je vous ai promis de vous faire tous mettre en croix ?»« Oui, oui !» crièrent les pirates, et leurs éclats de rire le suivirent jusqu'au rivage. César était homme de parole. À peine eut-il mis pied à terre, qu'il arma des vaisseaux, courut sus au navire qu'il avait fait prisonnier, le prit à son tour, fit deux parts, une de l'argent, l'autre des hommes, déposa les hommes dans les prisons de Pergame, après quoi il alla lui-même vers Junius qui gouvernait l'Asie, ne voulant point lui enlever ses privilèges de prêteur et réclamant de lui la punition des pirates. Mais celui-ci, en voyant l'énorme quantité d'argent pris sur eux, déclara que la chose méritait d'être examinée à loisir. Cela voulait dire, en bon latin, que le prêteur Junius voulait donner le temps aux compagnons de doubler cette somme et que, cette somme doublée, il rendrait la liberté aux prisonniers. Ce n'était point l'affaire de César. Cette vénalité du prêteur le faisait manquer à sa parole. Aussi, retournant à Pergame, se fit-il rendre ses prisonniers et, par ses marins à lui, les fit-il tous clouer en croix en sa présence. Il avait un peu moins de 20 ans lorsqu'il fit cette exécution. Au bout d'un an à peu près, César revint à Rome. Il avait étudié à Rhodes avec Cicéron, non plus sous Molon, qui était mort dans l'intervalle, mais sous Apollonius, son fils. Cependant, trouvant bientôt l'étude de l'éloquence une chose peu en harmonie avec le besoin d'action qui le dévorait, il partit pour l'Asie, leva des troupes à son propre compte, chassa de la province un lieutenant de Mithridate qui y était entré et retint dans le devoir tous ceux qui étaient chancelants et incertains. Puis il reparut au forum. Son aventure avec les pirates avait fait du bruit. Son expédition en Asie n'avait point été sans éclat. C'était ce que l'on appellerait de nos jours les Anglais un homme excentrique, les Français un héros de roman. Il n'y avait pas, jusqu'au bruit répandu sur lui et sur Nicomède, qui, tout en faisant rire les hommes, ne donnasse de la curiosité aux femmes. Quand les femmes se chargent de la célébrité d'un homme, sa réputation est vite faite. César, jeune, beau, noble, prodigue, fut bientôt à la mode. Il mena de front les affaires de cœur et les affaires d'État, l'amour et la politique. C'est à cette époque qu'il faut rattacher le mot de Cicéron. Lui, un ambitieux, ce beau garçon qui se gratte la tête d'un seul doigt de peur de déranger sa coiffure, non, et je ne crois pas que jamais celui-là mettait la République en péril. En attendant, César se faisait nommer tribun des soldats en concurrence avec Caius Popillius, sur lequel il emportait. Ce fut dans ce poste qu'il reprit sa lutte contre Sylla. Sylla avait fort rogné le pouvoir des tribuns. César fit valoir la loi Plautia et rappela dans Rome Lucius Cinna, son beau-frère, et les partisans de ce Lépide dont nous avons déjà parlé et qui, après la mort de celui-ci, s'était retiré près de Sertorius. Nous nous occuperons plus tard de cet autre capitaine d'aventure, fidèle contre toutes les habitudes à Marius qui avait fait sa fortune. Pour le moment, revenons à César. César faisait son chemin. élégant, généreux, passionné avec les femmes, gracieux dans la rue, saluant tout le monde, mettant sa blanche main dans la plus rude, comme nous l'avons dit, et laissant de temps en temps tomber ses mots quand on s'étonnait de ses abaissements vers le peuple. Est-ce qu'avant tout, je ne suis pas le neveu de Marius ? Maintenant, où César prenait-il l'argent qu'il dépensait ? C'était un mystère, mais tout mystère excite la curiosité, et quand l'homme mystérieux est en même temps un homme sympathique, la popularité s'accroît encore du mystère. En somme, César, à 21 ans, avait la meilleure table de Rome. La bourse pendue à cette ceinture lâche que lui reprochait Sylla était toujours pleine d'or. Qu'importait à ceux que cet or soulageait où cet or prenait sa source ? Au reste, son doigt et son avoir est presque à jour. Avant son tribunat, on savait déjà qu'il était endetté de 1300 talents. Lisez 7 150 000 francs de notre monnaie. Bon, disaient ses ennemis, laissez-le aller, la banqueroute fera justice de ce fou. Laissez-moi aller, disait César, et la première révolution liquidera mes dettes. Après le tribunat, il fut investi de la questure. Ce fut pendant qu'il remplissait cette charge qu'ayant perdu Julie, sa tante, et Cornélie, sa femme, il prononça leur éloge à toutes deux. Nous avons déjà fait remarquer que ce fut dans l'éloge de sa tante qu'exaltant leur origine commune, il dit ces paroles « Nous descendons d'un côté d'Ancus Marcius, un des premiers rois de Rome, de l'autre de la déesse Vénus. Donc ma famille réunit la sainteté des rois, qui sont les maîtres des hommes, et la majesté des dieux, qui sont les maîtres des rois. » Ce discours fit un grand effet. César, dit Plutarque, eût été le premier orateur de son temps s'il n'eût préféré en être le premier général. Une occasion fut à ce propos donnée à César de mesurer son influence naissante.